Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel du mercredi 12 septembre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. La République démocratique du Congo accuse la marine ougandaise d'avoir tué des pêcheurs congolais sur le lac Édouard. Trois enquêteurs de l'ONU déclarés persona non grata au Burundi alors que les Nations Unies tentent de relancer le processus de paix. L'opposition togolaise menace de reprendre les manifestations après avoir exprimé sa déception sur le dialogue politique. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump demande aux populations vivant dans les zones menacées par l'ouragan Florence de respecter l'ordre d'évacuation. Le pape François convoque une réunion sur la protection des mineurs après les multiples scandales de pédophilie impliquant des prêtres. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout de suite, le journal. Bienvenue à tous. Michel Kafando, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, s'est rendu à Dar es Salaam pour rencontrer Benjamin Mkapa, le facilitateur de la crise burundaise. Pendant ce temps, trois membres de la commission onusienne d'enquête ne sont plus autorisés à entrer au Burundi. Le point à Bujumbura avec notre correspondant Christophe Kourounziza.
Après une semaine d'intenses consultations avec les membres du gouvernement burundais, les partis politiques affiliés au pouvoir et ceux de l'opposition restés à Bujumbura, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Michel Kafando, a indiqué que tous les protagonistes rencontrés ont été d'accord pour leur participation à la prochaine rencontre en vue d'aboutir à un consensus sur la crise que traverse le Burundi depuis 2015. Michel Kafando a aussi rencontré les femmes membres de la société civile, mais également les représentants de la communauté internationale. Dit Kafando a encouragé les politiciens burundais afin d'arriver à un consensus pour le prochain round des négociations programmées à Arusha, à la communauté internationale. L'envoyé spécial a demandé d'aider pour le développement au Burundi. Il est à rappeler que le gouvernement burundais a déclaré Doudou Diène, sénégalais, Lucie Assiouagbor, camerounaise, et Françoise Hampson, de nationalité britannique, trois membres de la commission d'enquête des Nations Unies, persona non grata sur le territoire burundais. En octobre 2017, le Burundi s'était retiré de la Cour pénale internationale et suspendu sa coopération du Haut Commissariat des droits de l'homme. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, les corps de quatre pêcheurs congolais disparus depuis vendredi sur le lac Édouard ont été retrouvés ligotés et portant des traces de balles. La force navale congolaise accuse la marine ougandaise. Le point avec Eddie Isango.
Jonas Kataliko, président de l'association des pêcheurs des Kiavinyonge dans la province du Nord Kivu, affirme que ces pêcheurs sont partis depuis vendredi sur les lacs Albert et n'étaient pas revenus. Hier mardi, ils ont vu leur corps calciné et ligoté flotter sur les lacs. Le major Jean Tchongo, commandant de la force navale, accuse des militaires ougandais d'avoir tué ces pêcheurs, brûlé leurs pirogues et, selon lui, les corps portaient des traces des balles. Kiavinyonge est un village congolais sur le bord du lac Édouard que se partagent la RDC et l'Ouganda. Les deux pays sont en désaccord sur le partage des ressources du lac. En juillet, à la suite d'incidents, 16 pêcheurs congolais ont été tués, ainsi que 4 militaires et 3 civils ougandais.
En Centrafrique, les 6 ONG internationales qui sont actives à Kagabandoro, dans le nord du pays, ont suspendu pour la journée d'aujourd'hui leurs activités dans la ville pour protester contre les violences que les humanitaires y subissent. À Kagabandoro, nous avons répertorié cette année 32 incidents contre les ONG, dont 21 depuis le mois de juin, a déclaré un responsable du centre de coordination des ONG en Centrafrique. Le gouvernement camerounais promet que le scrutin présidentiel du 7 octobre se déroulera dans un environnement apaisé sur tout le territoire. Le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a fait cette promesse alors que des combats quotidiens opposent depuis le début de l'année l'armée à des séparatistes anglophones dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a déposé sa candidature à la primaire de son parti, le Congrès des progressistes APC, dont il est le seul candidat pour participer à la présidentielle prévue en février prochain. Le principal parti d'opposition, le PDP, a pour sa part prolongé la date de clôture des candidatures à la primaire et choisira son candidat le 6 octobre. L'ancien vice-président Atiku Abubakar et le leader du Sénat, Bukola Saraki, sont des adversaires farouches du président Buhari. Au Togo, après deux jours de discussions jugées infructueuses sur la feuille de route de la CEDEAO, la coalition des 11 partis de l'opposition décide de reprendre ses manifestations de rue au Togo. Le point avec Kay Lawson à Lomé.
La coalition des 14 partis de l'opposition invite ses militants et sympathisants à descendre prochainement dans la rue. En optant pour la rue, la coalition veut d'abord exprimer sa déception sur l'état d'avancement de la feuille de route de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et ensuite mettre la pression sur le pouvoir afin que ce dernier puisse entamer les réformes proprement dites. La coalition de l'opposition exige la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI avant de parler de la tenue des élections initialement prévues pour le 20 décembre prochain. Lors des discussions avec le comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO, les 10 et 11 septembre à Lomé, les positions des deux partis n'ont pas réellement bougé. Le parti au pouvoir promet d'organiser le scrutin dans un esprit de consensus et d'inclusion. Rappelons que depuis février dernier, cette coalition de l'opposition n'a plus organisé de manifestations de rue. Les quelques rares tentatives ont buté sur une forte présence policière. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le chef rebelle Riek Machar ont signé ce mercredi un accord de paix au cours d'un sommet régional dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Les deux hommes se sont ensuite serrés la main devant des délégués et les chefs d'État de l'Ouganda et du Soudan en présence du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le président de la Commission européenne a proposé de bâtir une nouvelle alliance, un nouveau partenariat entre l'UE et le continent africain. Ce nouveau partenariat pourrait créer jusqu'à 10 millions d'emplois dans les 5 prochaines années. Jean-Claude Juncker a indiqué qu'il faut arrêter d'envisager les relations de l'UE avec l'Afrique dans la seule perspective de l'aide au développement.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la population d'une vaste partie de l'est du pays se prépare à l'arrivée de Florence, un ouragan potentiellement dévastateur, attendu avec des vents extrêmement violents et des pluies diluviennes. Le point avec Saloua Diafari.
La trajectoire de l'ouragan chargé de vent pouvant atteindre 215 km/h a beau évoluer au fil des bulletins météo. Une constante se dégage. La Caroline du Sud, la Caroline du Nord et la Virginie seront plus exposées lorsque Florence va balayer la côte est des États-Unis. Les opérations d'évacuation concernent 1,7 million de personnes. Les supermarchés ont été pris d'assaut par la population pour faire le plein d'eau, de nourriture et de produits de première nécessité. Les personnes vivant sur le chemin de l'ouragan doivent s'attendre à des coupures d'électricité, des destructions de bâtiments, de routes et de ponts, ainsi qu'à des inondations d'envergure. Le président Donald Trump essaie de rassurer.
La sécurité des Américains est ma priorité absolue. Nous n'épargnons aucune dépense. Nous sommes totalement préparés. Nous sommes prêts.
Les autorités s'attendent à des précipitations pouvant atteindre par endroits 63 cm, à des inondations majeures avec des montées d'eau de 35 à 50 cm et à des crues à l'intérieur des terres jusqu'en début de semaine prochaine.
La direction palestinienne examine les possibilités de riposter aux mesures de l'administration américaine Donald Trump. Elle n'exclut pas l'éventualité de la suspension de la coopération dans le domaine de la sécurité. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accuse les dirigeants européens de faire preuve de complaisance vis-à-vis de l'Iran. Le temps est venu pour le monde de s'unir dans la lutte contre les organisations terroristes. Il l'a fait dans une certaine mesure contre le groupe État islamique, mais ne le fait pas contre l'Iran, a dit Netanyahou. Le pape François a convoqué pour février prochain une réunion au Vatican de tous les présidents des conférences épiscopales dans le monde pour aborder le thème de la protection des mineurs. Nanette Talani.
Selon un communiqué du C9, le conseil de cardinaux qui aide le pape François à réformer le Vatican, cette réunion aura lieu du 21 au 24 février 2019 au Vatican. Le pape François doit recevoir demain jeudi une délégation de la conférence épiscopale américaine, dont son président, le cardinal Daniel Guinardó. Le sujet de leur entretien n'a pas été précisé, mais la publication mi-août d'un rapport accablant sur les agressions sexuelles commises en Pennsylvanie par des membres du clergé, plus la démission en juillet du cardinal Théodore Macaric, ont secoué l'Église catholique américaine. Au Chili, Francisco Javier Errázuriz, 85 ans, est accusé d'avoir fait la sourde oreille face aux victimes de pédophilie. En Australie, George Pell, 77 ans, fait face à des poursuites pour agression sexuelle sur des enfants. Le pape François a récemment accepté la démission de Mgr Juan José Pineda du Honduras, dont le nom est cité dans diverses affaires à caractère sexuel.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe à l'actualité économique et on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Jacques Aristide.
En République démocratique du Congo, le ministre des Mines affirme que le nouveau code minier promulgué en mars dernier ne peut être mis en cause. Lors de la conférence minière de Kolwezi ce mercredi, Martin Kabwelulu a appelé les acteurs du secteur à mettre en œuvre le code tel que paraphé par le président Joseph Kabila. Également présent à cet événement, le chef de l'État congolais a lui aussi réclamé l'application effective du nouveau code minier. La RDC, le premier pays producteur de cuivre en Afrique et premier producteur de cobalt au monde, un métal indispensable aux smartphones, ordinateurs portables et autres voitures électriques. Dubai Port World, opérateur de 78 ports dans 40 pays, compte utiliser tous les moyens juridiques pour défendre ses droits dans un port de Djibouti, deux jours après sa nationalisation par le gouvernement. La nationalisation du terminal de conteneurs de Doralé est intervenue plusieurs mois après l'annulation par Djibouti d'un contrat de concession de 50 ans avec DP World, ce qui a déclenché un grave différend entre l'État africain et Dubaï, l'un des sept membres des Émirats arabes unis. Le terminal contesté est une installation essentielle pour l'approvisionnement de l'Éthiopie voisine, qui est enclavée et il est situé dans la Corne de l'Afrique, une région hautement stratégique. Djibouti affirme que sa souveraineté nationale était compromise. La Banque centrale du Kenya a infligé une amende de 3,89 millions de dollars à cinq banques commerciales après une enquête sur le détournement de fonds appartenant à l'Agence gouvernementale pour la jeunesse. Il s'agit des banques Standard Chartered Kenya, Equity, Diamond Trust, Cooperative Bank et KCB Group.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Le Gabon n'a plus d'entraîneur.
Ah oui, le sélectionneur du Gabon, José Antonio Camacho, ne sera pas reconduit à son poste à la fin de son contrat en novembre. C'est ce qu'indique le ministre des Sports gabonais au lendemain de la défaite 1-0 en amical contre la Zambie. Camacho avait été appelé à la rescousse à la tête des Panthères gabonaises fin 2016, en remplacement du Portugais Jorge Costa, qui avait été limogé. Mais sa nomination avait été critiquée. Camacho, sans emploi depuis 2013 et son passage à la tête de la sélection chinoise, ne parle pas le français et il découvrait l'Afrique. Après 15 matchs à la tête du Gabon, Camacho, ex-joueur du Real Madrid, ne compte que 2 victoires pour 7 défaites et 8 matchs nuls. Samedi, les Panthères ont fait match nul face aux Hirondelles du Burundi, un but partout, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, dans le groupe C, où figurent également le Mali et le Soudan du Sud.
Montant record dépensé pour le mercato de football.
Oui, le montant global des transferts durant le dernier mercato d'été dans les 5 grands championnats européens de football a atteint un nouveau record. 4 milliards 210 millions de dollars, c'est ce que révèle une étude de la FIFA. C'était un peu moins de 4 milliards en 2017 et 2,79 milliards de dollars en 2016. Cet été, la hausse a été tirée par l'Italie, plus 74% dépensés, ou l'Espagne, plus 42%, tandis que l'Angleterre reste le plus gros dépensier avec 1,44 milliard de dollars dépensés.
La fédération malgache fait un geste pour les victimes de la bousculade du week-end dernier.
Oui, la Fédération malgache de football prendra en charge les soins adressés aux victimes de la bousculade de dimanche au stade de Mahamasina en marge du match Madagascar-Sénégal. L'organisation autour de l'accès du stade est pointée du doigt après la bousculade en marge de la rencontre Madagascar-Sénégal. Cette bousculade a fait, je vous le rappelle, une trentaine de blessés et un mort.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. On passe au dossier du jour. À Niamey, la capitale nigérienne, une conférence régionale sur l'impunité, l'accès à la justice et les droits de l'homme se tient dans un contexte de nouvelles menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. C'est une initiative de l'Office des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest pour aider les différents États de cet espace confrontés au terrorisme à relever ces défis. Précision avec notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa.
Comment concilier le respect des droits de l'homme, le désir de justice des victimes des actes terroristes et la propension des États à amnistier des combattants qui se rendent? C'est pour y réfléchir que trois jours durant, des experts venus des pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, confrontés au terrorisme, ont planché. Mohamed Ibn Chambas, chef de l'Office des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, INOAS.
C'est important de souligner qu'un combattant contre le terrorisme, il faut aussi assurer le respect des droits de l'homme, mais surtout assurer la justice pour la population. Parce que parfois, c'est le manque de justice qui aussi crée des conditions fétides pour le renseignement de le radicalisme. On a vraiment discuté et insisté pour que les États soient conscients de cette problématique et améliorer le système de justice.
La principale conclusion de cette rencontre est l'appel qui a été fait pour qu'une conférence régionale sur l'efficacité de la justice soit institutionnalisée, ce dont s'est félicité Moru Amadou, ministre nigérien de la justice.
En effet, quand nous avons une justice efficace, parce que crédible et accessible, nous sommes tous convaincus que c'est le moyen, l'instrument essentiel de lutte contre l'impunité, l'instrument essentiel de promotion et de protection des droits humains. Cette conférence, sous l'égide des Nations Unies, doit être institutionnalisée, nous avions dit dans la déclaration de Niamey, dans les meilleurs délais. Et je pense qu'elle sera l'organe qui permettra, tout au moins aux justices des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, à évaluer leur système, à se concerter, à pouvoir faire des échanges de bonnes pratiques pour améliorer nos systèmes dont nous savons qu'ils sont perfectibles.
Des experts de la justice transitionnelle pratiquée dans les pays qui ont connu des situations de conflit ont partagé leur expérience avec les participants durant les trois jours de cette rencontre. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur le Proche-Orient. L'administration Trump a ordonné cette semaine la fermeture de la représentation palestinienne à Washington, une mesure qui intervient après d'autres, comme le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Les accords israélo-palestiniens d'Oslo ont déjà 25 ans, ils avaient suscité un espoir de paix, mais aujourd'hui, les affrontements se multiplient le long de la frontière avec Gaza, l'enclave sous blocus israélien, la Cisjordanie est toujours occupée, la colonisation israélienne continue. Peut-on parler d'impasse? Que reste-t-il à négocier? Morgane Berniak en votre compagnie, on en discute ce jeudi à 19h temps universel.
Au Nigeria, la religion et la tradition constituent toujours un obstacle à la participation des femmes à la vie politique, principalement dans le nord du pays. Alors que les femmes réclament plus de responsabilités en politique, VOA Afrique est allée à la rencontre des activistes qui militent pour cette cause. Le reportage de Gilbert Tomba, le correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
s'est lancé dans l'arène de la politique nigériane dominée par les hommes de surcroît dans le nord-est du pays conservateur est toujours une décision difficile pour une femme. La plupart des hommes politiques considèrent que la place de la femme est à la cuisine. Sero Djibril a été la première candidate à une élection présidentielle au Nigeria en 1992 et en 1998 contre Olusegun Obasanjo qu'elle a perdu et ensuite contre l'ancien président Goodluck Jonathan en 2011.
Mon objectif était de montrer que nous, les femmes, nous sommes bloquées et gardées dans l'ignorance et les hommes s'accordent plus de respect eux-mêmes et les utilisent contre les femmes. Ils piétinent ensuite les vertus des femmes et les empêchent de s'impliquer dans la politique. Et je ne suis jusqu'à présent pas satisfaite.
C'est sans surprise qu'elle a été battue par Goodluck Jonathan aux primaires du PDP. Ça, c'était il y a 7 ans. Cependant, pas grand-chose n'a changé pour les femmes comme elles qui se battent pour l'égalité de représentation et de participation dans le domaine politique au Nigeria. Princess Hodman Nobel est activiste des droits des femmes au Nigeria.
Il est vrai que la religion et la croyance culturelle constituent un obstacle à la participation des femmes en politique. Mais cela a aussi évolué avec le temps. Puisqu'au-delà des obstacles de la tradition, de la religion et de la culture, nous avons d'autres choses récentes qui découragent les femmes à s'impliquer dans la politique. Si nous prenons par exemple l'achat des consciences pendant les périodes électorales, les femmes ne peuvent pas mobiliser de tels montants.
5 élections générales ont eu lieu au Nigeria depuis 1999, année qui marqua le retour du pays à la gouvernance démocratique au terme de longues années de dictature militaire. Depuis, seule une poignée de femmes ont occupé des fonctions officielles. Cette situation est d'autant plus étonnante que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et que dans d'autres pays du continent africain, des progrès considérables ont été accomplis dans ces domaines. Les causes de la sous-représentation des femmes dans la politique nigériane sont multiples. Djibril Ibrahim est professeur de sciences politiques à l'université d'Abuja.
Je pense souvent les hommes ont peur. Beaucoup de ces femmes-là sont compétentes. Beaucoup d'entre eux ont joué un rôle important dans la vie communautaire. Ils sont bien connus dans leur communauté. Donc, c'est les femmes qui ont le potentiel de gagner. Et c'est pour les bloquer que les hommes qui veulent les concurrencer cherchent de les détruire.
Le Nigeria est un État multiconfessionnel avec une population de près de 200 millions d'habitants aujourd'hui. Le pays est réparti pratiquement à part égale entre chrétiens et musulmans. Des interprétations conservatrices de ces deux religions font qu'à l'heure d'accéder aux coulisses du monde politique au Nigeria, les femmes se heurtent à des obstacles à la fois culturels et religieux. Gilbert Tamba, VOA Afrique, Abuja.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
République démocratique du Congo à présent, fausses alertes à Kisangani et à Goma sur d'éventuels cas Ebola, des cas d'Ebola plutôt. Quelques décès suspects ont semé la panique dans les deux villes, mais les échantillons prélevés se sont révélés négatifs. Pendant ce temps, les autorités sanitaires continuent leur campagne de sensibilisation auprès des populations à Beni, zone où sévit l'épidémie. Eddy Sango a joint dans le Nord Kivu le coordonnateur de la riposte à Ebola, le docteur Bart Njoloko.
On a plus de cas quasiment, on a 0 cas, 1 cas. La courbe aussi, vous voyez, quand on a démarré la riposte, c'était très élevé. Ces résultats-là, vous ne pouvez pas les avoir si vous ne coopérez pas avec la grande partie de la population. Maintenant, il y a quelques résistances, il y a quelques personnalités politiques et autres, sociales, qui influencent des petits groupes. Il y a des acteurs qui manipulent, qui trouvent que c'est l'occasion d'avoir l'argent, c'est une occasion de se positionner, c'est une occasion de préparer sa campagne électorale. Nous sommes conscients que ces petits groupes ont retardé la riposte, mais je mettrai à des si tout celui qui dirait que la grande partie de la population n'est pas consciente de l'existence de cette maladie. C'est une maladie qui a tué beaucoup de gens ici. Et ça a créé des paniques. Il y a des familles qui ont pratiquement vu les gros de leurs membres être décimés. Évidemment, quand quelqu'un est à Goma, il est moins sensible que quelqu'un qui est à Beni ou quelqu'un qui est à Mandina. Mais la maladie est là, était là. L'épidémie Ebola a tué ici. Nous avons des gens qui ont été à l'hôpital et qui sont sortis. Plus d'une vingtaine guéris.
Qu'est-ce que ces gens-là disent à la population?
Il y a des politiciens qui ont déclaré que Ebola n'existait pas. Ils l'ont dit à la télé, ils l'ont dit à la radio. Et quand un élu le dit, il y aura toujours une frange de gens qui croient en lui. Et ça, ça nous a pris beaucoup plus de temps de dénuer cela, de défaire cette désinformation qui ne nous paraît pas très responsable.
Quel rôle jouent les traditions, les coutumes ou même les croyances dans cette résistance?
Au début, on a eu un grand problème. Pendant que nos équipes se mettaient en place, il y a eu des frottements entre les coutumes et les équipes d'entraînement. Juste au début, et que nous avons pu cerner rapidement, puisque dans tous les cas, en gros, c'est quasi les mêmes coutumes que nous avons dans beaucoup de milieux où il ne faut pas enterrer les gens la nuit. Les gens étaient encore paniqués de voir les sacs mortuaires. Ils n'avaient jamais vu et emballé les gens dans les sacs mortuaires. Tout cela, au début, c'était un choc pour la population. Si vous aviez un parent et vous vous dites qu'il n'est pas éclairé pendant un jour ou deux jours, on doit les enterrer et quand vous devez aller l'enterrer, on vous demande de ne pas toucher les corps, on vous demande de remettre les corps d'abord dans un sac, après même dans un cercueil. Et ça, ce n'est pas vraiment spécifique à la communauté ici. Tout ça, on l'a vécu partout, et même en Afrique de l'Ouest, ça a été noté, toutes ces résistances-là. Mais nous y travaillons, nous avons approché les chefs coutumiers, les chefs religieux, dans nos habilités, et nous continuons à travailler.
Docteur, qu'est-ce qui s'est-il passé à Kisangani? Et même à Goma, il y a eu panique, on a parlé des cas et même des décès. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ce n'était que l'alerte et nous avons fait venir les échantillons que nous avons analysés, et même pour Kisangani, et tous les trois se sont avérés négatifs.
C'était le docteur Bart Njoloko, coordonnateur de la riposte à Ebola à Beni.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Maroc, une équipe de football pour personnes de petite taille est à quelques pas de réaliser son rêve de conquérir les pelouses internationales. Cette formation manque cependant d'aide pour se rendre en Argentine, où elle a été invitée à participer à un tournoi pour personnes de petite taille. Le récit de Yacouba Ouedraogo.
Techniquement, ils n'ont rien à envier aux autres footballeurs, mais les joueurs de petite taille ont du mal à se faire une place dans le foot marocain. Ils ont pourtant réussi à séduire jusqu'en Amérique latine, au point d'être invités par les organisateurs de la Copa América pour personnes de petite taille à prendre part à la compétition cette année en Argentine. Cependant, un manque de financement pour leurs billets d'avion et leur hébergement pourrait compromettre leur participation. Eman Chamadji est membre de l'équipe.
Nous avons beaucoup d'ambition, mais notre objectif principal est la Copa América en Argentine. Nous voulons y aller et ramener le titre. Nous demandons de l'aide, mais nous ne trouvons pas quelqu'un pour nous soutenir. Toutes les portes nous sont fermées. Nous avons demandé de l'aide à Fawzi Lekja, président de la Fédération de football. Il s'est félicité de l'idée, mais nous attendons toujours.
En attendant, les joueurs poursuivent leurs entraînements et la formation inclut des séances contre des équipes régulières. La plupart d'eux vivent dans les villes autour de Casablanca et doivent payer eux-mêmes leurs frais de transport et d'hébergement lorsqu'ils viennent à Casa pour la formation. C'est dur, mais ils ne veulent pas manquer cette opportunité de faire valoir leurs compétences à Buenos Aires. Oussama El Saguir, footballeur de petite taille.
Depuis la mise en place de l'équipe, nous nous préparons continuellement. Nous avons établi un partenariat avec des équipes d'Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, au Pérou et en Bolivie. Nous avons pu consolider ce partenariat. Ils ont suggéré que le Maroc soit invité d'honneur en raison de leur connaissance de notre jeu et du niveau que nous avons atteint. Nous sommes heureux d'avoir pu réserver une place à eux.
L'équipe a été mise en place en 2017, inspirée par d'autres pays. Depuis, elle est dirigée par Nizar Ben Kataba, qui en est le capitaine.
L'idée est partie de l'existence d'équipes étrangères comme la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Amérique latine, qui furent les premières à jouer ce genre de football. Nous étions impatients de créer notre équipe et Dieu merci, nous avons réussi à attirer beaucoup de joueurs. Maintenant, nous avons 50 footballeurs dans trois catégories, A, B et C.
Parmi ces 50 joueurs, seulement 18 seront sélectionnés pour prendre part à la Copa América des Nains, bien sûr, s'ils en trouvent les moyens d'y aller.
c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, c'est Drake Franklin. Présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.